bon, je sais pas comment tu traduis le premier verset. Donc on est dans Tazria. Ça commence par Yedaber Hashem et Moshe et les morts. Donc ici il faut entendre Hashem parle à Moshe pour que Moshe Rabbeinu les morts pour qu'il le dise à d'autres. Le répercute donc. D'abord, il lui dit, d'abord, il venait Israël, les morts, de nouveau. Parle aux venait Israël, les morts, c'est-à-dire, ils doivent le répercuter. On voit très bien, il y a ici cette idée que les choses sont dites, mais elles doivent être aussi répercutées. Après, c'est une espèce de chaîne. Et ça commence, Isha kitazria vialda zahar, une femme qui est enceinte, clairement qui était ensemencée, si on peut parler comme ça, et Vialda Zapar, qui a eu un enfant, Zapar, mal. Alors, la conséquence, c'est Vetama Shivat Yamim, elle sera impure pendant 7 jours, Imenida Vota, Itma, elle, c'est du même type que l'impureté conséquente aux règles. Uvayom Ashmini, et le 8e jour, Yimol Bessar Orlato, le 8e jour, on fera la Mila, donc on va couper donc la Orla de cet enfant dont on vient de dire qu'il était né. Et ensuite, Ushloshim yom, ushloshet yamim, et ensuite, il y aura 33 jours, chez Teshev Bidme Torah, ça veut dire, cette femme-là, même si elle a des écoulements de sang pendant 33 jours, n'en deviendra pas impure, donc, par exemple, interdit à son mari, pendant ce temps-là, je vais tout de suite, la fin, elle est pas, on fait pratique pas comme, on ne pratique plus comme ça. Le Chol Kodesh Otiga, elle ne touchera rien de ce qui est des Kodashim, mais la Migdash Lotago, elle ne peut pas entrer dans Metamigdash, Admelok Yemetara, jusqu'à la fin des 33 jours. 7 plus 33 jours, à ce moment-là, il y aura un processus de Korbanot, jusque-là, donc, il lui restera seulement une impureté par rapport au domaine du Metamigdash, si vous voulez. Vrim Nekeva Telet. Et si maintenant l'enfant est une femme, enfin une fille, alors l'impureté sera le double, elle sera de 14 jours avec un statut analogue à celui de Nida, mais de la même manière qu'il y a le nombre de jours d'impureté est doublé, le nombre de jours de pureté est aussi doublé. Elle aura 66 jours pendant lesquels, même s'il y a des écoulements, sera néanmoins trop pur. Ou vim le haut, c'est à la fin de cette période-là, la période 33 plus 7 ou la période 14 plus 66, ta vie, elle amènera, keves ben shnato leola, elle amènera un agneau d'un an, comme holocauste, complètement consumé, ça veut dire, ou ven yona, autor et colombe ou un pigeon, comme korban khatat. Pourquoi c'est un khatat? Khatat, a priori, ça s'apporte quand on a fait une faute. Cette faute, là-bas, elle a fait une faute. Elle pète à Kohen Moed, elle a Kohen, elle amènera ça au Kohen, et le Kohen va l'approcher devant Hachem, et elle aura kapara, et ensuite, elle sera, et également, elle sera purifiée. Et zot, torat ayoledet, azaha olam keba. Ceci, c'est la loi d'une femme qui accouche, que ce soit un garçon ou une fille. Et maintenant, il y a un corban particulier, une situation particulière, c'est que dans certains cas, les corbanotes qui doivent être amenés sont variables selon les moyens financiers de la personne qui doit les amener. Ça coûte de l'argent, ça coûte peut-être trop pour cette personne d'amener un agneau. Alors on dit, si elle n'a pas les moyens de prendre, alors elle prendra par exemple deux colombes ou deux pigeons au lieu d'un agneau plus une colombe ou un pigeon. comme donc dans les deux volailles, il y en a une qui sera une hola en entièrement consumée, et l'une sera apportée comme khatat. Le critère allait à Kohen Vetaera. Et ça suffira. Le Kohen il fera la procédure et elle deviendra pure aussi, d'une part pure, c'est-à-dire qu'elle pourra de nouveau entrer dans le Betamikdash et manger des kodashim le cas échéant, et elle aura aussi kapara pour cette éventuelle, là où elle avait besoin du kapara, alors elle aura cette kapara. Voilà. Et ensuite, on passe à d'autres problèmes de Touma avec ce qu'on appelle les Negaïm, c'est-à-dire des formes de dégradation de la peau, par exemple, ou des vêtements, ou de la maison. Et alors, la première question que Rashi ramène au nom du Midrash, en fait, la première question, c'est, dit Rashi, vous avez Rashi, vous pouvez voir, Amar al-Simlai, al-Simlai dit que Shem shi tsirato shel Adam, achar kol behema chaya ve'ot, behema c'est Breshit, de la même manière qu'au moment de la formation de l'homme, qui est rapporté dans le récit de Bereshit, dans le récit de la création, la formation de l'homme, elle est présentée après la formation des animaux. Les animaux, les volailles, etc. Et bien, de la même manière, la Torah, ça veut dire les lois de pureté et d'impureté concernant les êtres humains sont ici approchées, enfin présentées après qu'on ait vu dans la parasha de Shmini, la parasha dernière, on avait vu tous ces problèmes de pureté et d'impureté du monde animal. Donc, visiblement, on a un problème, c'est comment se fait-il, finalement l'homme c'est quand même le couronnement de la création, comment se fait-il que les problèmes humains sont traités qu'après les problèmes des animaux. Et, donc c'est un peu dérangeant. Alors, la réponse c'est, on a copié ce qui s'est fait dans l'Ancien Régime, mais ça ne fait que repousser la question. Alors, pourquoi dans l'Ancien Régime, est-ce qu'on a mis la création de l'homme seulement après celle des animaux? Alors, une réponse très simple, c'est que dans le monde animal, au moment de la création, la formation, le petit animal, il a une autonomie beaucoup plus rapide que celle du petit homme. Enfin, le bébé, il peut rien faire. On dit que une grande partie des animaux, etc., sont d'une certaine manière un petit peu opérationnels déjà dès les premières minutes ou dès les premières heures. Et comme là-bas, on parlait de la création, on voit très bien les termes qui sont utilisés, c'est la yitzira, c'est-à-dire la formation. La notion de yitzira, alors, c'est presque le corps, si vous voulez. On parle du corps. Comme là, ici, on parle aussi du corps. Bien entendu, tout ce qui se dit là sur le corps est lié avec ce qui se passe dans la neshama. C'est bien sûr que les deux choses sont complètement liées, mais la manifestation est sur le corps, en fait. Alors, après vous dire ce que dit Rambam dans le Moré Gouchim, dans le troisième partie, Rambam, Maïmanide, donc, il pose la question, pourquoi notre langue s'appelle-t-elle le Lachon HaKodesh? Lachon HaKodesh, c'est-à-dire la langue du sacré, pas la langue sacrée, mais la langue du sacré. Et il répond, c'est parce que dans cette langue-là, tout ce qui est l'ordre de l'ordre de la sexualité, n'est dit que de façon allusive. Il n'y a pas des mots crus, en fait, pour décrire les choses. Bon. Alors, Rabbi Yochanan Leibowitz, le masgar de l'Esgadmir en Pologne, en son temps, était le maître de Rav Volver, par exemple, ou de Rav Lefer, enfin, pas de Rav Lefer, mais le maître de Rav Lefer, le maître donc de Rav Volver. Il a commencé son cours sur le Kumas Satasriya en disant que celui qui prendrait les paroles du Rambam à la lettre, c'est-à-dire superficiellement, il peut se dire effectivement que la raison est un peu faiblarde. C'est pas, finalement, c'est presque pas accessible, presque pas acceptable comme justification. Mais il dit que, après réflexion, il faut voir ici quelque chose d'extrêmement important, et il faut entendre le Rambam.
Pardon, Rav, on n'entend pas très bien, j'entends pas très bien. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher du micro?
Vous rapprocher, mais...
Voilà, comme ça c'est mieux, oui.
Ah, c'est le livre qui vous a... Ok.
Merci.
Il faut étudier le Rambam de la même manière qu'on étudie le Sefer Shah Al-Dusha de Rav Chaim Vital, l'élève du Arizal, qui est l'ouvrage standard, si vous voulez, sur la notion de Dusha. Tout petit livre, évidemment très important. Et lui, le Rav Yochanan, il dit, il faut lire le Rambam. C'est quelques lignes que je vous ai lues, quelques mots que je vous ai lus du Rambam. Il faut les lire comme si ce qui était dit là était écrit dans le Sefer, dans le Shah Al-Dusha. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Il dit que, en vérité, le Rambam dévoile ici quelque chose, en quelques mots. Et je dis, dit Rav Yochanan, que c'est la même chose que ce que dirait Rav Chaim Vital. Ça veut dire, quand on s'occupe de ces parchiotes de Tazria et de Metzora, il parle a priori de ce qu'on appelle Simane Touma ou Simane Tahara, les signes de pureté ou d'impureté. On avait la même chose dans le monde animal, les signes de pureté d'impureté, là-bas, le fait que l'animal soit appelé pur ou impur, ce n'est pas du tout une question de spiritualité. Parce que là-bas, le mot pur voulait dire consommable, et le mot impur voulait dire non consommable. C'est pas cher ou pas cher. Mais, bon, ça a son importance que ce soit dit en des termes de Touma et de Tahara. Mais c'est un animal vivant n'est jamais impur. Le seul être vivant qui peut devenir impur, c'est l'être humain. Sinon, dans le monde animal, ce sont que des cadavres qui peuvent être impurs et rendre impurs. Jamais un animal vivant ne peut être impur. Donc, mais néanmoins, la terminologie est toujours impureté, et quand on parle de pureté et d'impureté, comme on l'a vu dans Parchat Shmini, on parle des signes de pureté et d'impureté. Signes de kashrout ou non kashrout. Dans le monde, dans les béhémotes, il s'agit de sabots fendus et de fêtes ruminées. Puis il y a les nageoires et les écailles, etc. Donc, ce sont des signes de pureté et d'impureté. Ce n'est pas de la pureté ou de l'impureté. Ce ne sont que des signes d'impureté ou de pureté.
Et le serpent, on le met dans quelle catégorie? Le serpent.
Il n'est pas cachère. C'est pas cachère.
Il n'est pas cachère. Mais on ne dit pas que l'animal est impur en lui-même?
Non, il n'est pas impur. Seulement, d'abord c'est son nom, mais par exemple un lézard, quand il est mort, il est impur. Une souris morte est impure. Mais seulement quand elle est morte, c'est son cadavre qui est impur. Une souris vivante, elle est parfaitement pure. Vous pouvez la toucher, ça ne vous empêchera pas d'entrer dans le Beth Amikdash quand il sera rebâti, reconstruit. Il n'y a pas de problème. Alors ici, la Torah va tout parler de signes aussi d'impureté et de pureté. Comment ça veut dire, par exemple, quand on viendra, vous savez bien que on va parler de ce qu'on appelle les Negaïm, les Negaïm standards qui sont décrits dans la Torah, sont des manifestations sur la peau. C'est pour ça qu'on a pris la traduction qu'on pouvait prendre. On a appelé ça une forme de lèpre, mais ça n'a rien à voir avec la maladie lèpre, bien entendu. Simplement que sur la peau, il y a des manifestations de des morceaux qui deviennent blancs, qui deviennent rouges, qui deviennent des poils qui blanchissent ou non, etc. Et là-bas, ce sont à chaque fois des signes de pureté ou d'impureté. Marot Negaïm, des aspects qui indiquent qu'on a affaire à un néga, mais c'est seulement des signes. Pour l'entendre. Donc, en fait, dans les Matamim, quand on en parle, et Rashi le ramène, un peu plus bas, on verra. Rashi ramène le texte suivant, il dit, Negaïm em siman, les Negaïm sont un signe de quoi? Signe de Gassut Aruach. Et la Shonara. Gassut Aruach, littéralement, ça veut dire épaisseur d'esprit. C'est-à-dire grossièreté au sens où un tissu est grossier, c'est grossièreté de l'esprit, c'est-à-dire un manque de finesse. Et ça, c'est le terme qu'on utilise pour parler de l'orgueil. L'orgueil, c'est un manque de finesse, un manque de subtilité. En gros, c'est quelqu'un qui va se prendre pour Dieu, donc qui n'a rien compris, quoi. Il manque un peu de finesse pour comprendre que ce qu'il pense de lui ou la façon dont il se conduit est complètement débile, quoi. Donc c'est ça qu'il faut entendre. Que ce dont on nous parle ici, ce sont des signes. Alors, quand on dit qu'on a affaire à un signe, nous, jusqu'à là, on a vu des signes d'impureté. La Negaïm, c'est des signes d'impureté. Il y a aussi des signes de pureté. Comme dans le monde animal, on a vu des signes de pureté, c'est-à-dire le sabot pendu, par exemple, et le fait de ruminer, ou les nageoires et les écailles, etc. Donc, c'est des signes de pureté. Il y a aussi des signes de pureté dans en ce qui concerne les êtres humains. Et c'est la raison pour laquelle il y a une langue, une certaine façon de s'exprimer qui est un signe de pureté. Le Lashona Kodesh, en fait, ici, parce que pour les hommes, on parlait de Kodesh, ici, dans l'autre sens. C'est-à-dire que on parle pas de... On parle pas toujours de Tahara, bien que ce que je viens de vous lire sur la purification de la femme accouchée, on parle là-bas de Tahara au sens où elle se serait purifiée, elle ne rendrait pas impure, etc., des choses par contact et autres. Mais il y a aussi le couple un peu surprenant, si vous voulez, qui est impureté d'un côté et kedusha de l'autre. Alors qu'en réalité, on devrait pas, c'est pas un vrai couple. Le couple, le contraire de l'impureté, c'est la pureté, c'est pas la kedusha. Mais souvent, le couple avec lequel on fonctionne, c'est le couple impureté et kedusha. Donc, le lashon hakodesh, ça veut dire que le domaine de la kedusha, il a une langue, ce domaine a une langue adéquate, une langue qui le caractérise. C'est ça que le Rambam veut dire. Il dit que le fait que tu trouves pas certains mots, certaines expressions, c'est un signe qui indique qu'on a affaire ici à une langue qui est la langue adéquate pour parler de la Kedusha. Et pour vivre la Kedusha, l'homme, il veut vivre à un certain niveau de Kedusha, il se doit de parler d'une certaine manière. Il y a des expressions qui ne conviennent pas, si vous voulez, quand on veut parler de choses concernant la Kedusha ou quand on veut vivre à un niveau de Kedusha. Alors, il faut vivre avec la langue qui convient. Alors, c'est des fois un peu compliqué parce que la Gemara, elle dit que Ma umanuto shel adam ba'olam hazeh. Quel est le umanuto, c'est l'artisanat. Quel est le savoir-faire? Est-ce qu'on peut demander à un homme, un être humain, de faire pour bien être de plein pied dans ce monde-ci? Alors, la Gemara dit Yassim atzok ilem. Il doit faire comme s'il était muet. D'ailleurs, ne pas parler. Alors, c'est un peu paradoxal. L'homme est créé comme un animal parlant. Parlant, c'est vraiment la caractéristique humaine. Et on dit, qu'est-ce qu'on veut de, comment est-ce qu'il doit se conduire, etc. Eh bien, il faut justement qu'il se conduise de cette manière-là. Ne pas parler. Tu peux parler, tu as le moyen de parler, en quelque sorte. Eh bien, ne parle pas. Alors, la Gemara demande, est-ce que ça s'applique aussi pour le livre Torah? Est-ce que les livres de Torah, il faut pas non plus les parler? Il faut peut-être les penser, les lire, lire avec les yeux, mais ne pas les parler? Non. Là-bas, c'est marqué dans le passage. On le lit dans le schéma. Le dibarta, bam. Dans les livres de Torah, on parle dans le paragraphe de la protection, le dibarta, bam, tu en parleras. De ces livres de Torah, tu parleras. Donc, il y a une langue qui correspond à la volonté de vivre à un certain niveau de Kedusha. Alors, effectivement, il y a des gens, on raconte ça au nom du petit frère de Rav Chaim de Volozhin, Rav Zalmaner, lui, il ne parlait pas du tout autrement qu'avec les livres Torah quasiment. Et quand il voulait, par exemple, manger, alors il disait des textes de la Mishnah ou de la Gemara, il parlait de manger. Donc, ça implique évidemment qu'il vivait avec des gens qui comprenaient ce qu'il disait, qui étaient capables de comprendre de quoi il parlait, quand il citait une Mishnah ou une Halakha, etc., concernant telle ou telle chose. Il y a des gens, déjà, ça c'est assez rare, des gens qui, j'ai jamais entendu dire de quelqu'un d'autre qui se soit conduit comme cela, mais par contre des gens qui s'abattent par exemple, ne parlent pas autrement que pour des livres Torah, ça je connais des gens qui se conduisent comme ça. Donc c'est cette idée de gérer la langue, parce que c'est une des façons de bien montrer que il s'agit d'un usage de la langue adéquat pour un juif qui veut vivre au niveau de la Kedusha. Bien. Alors, la première halakha qu'on a vue, le premier texte qui parle de Kedusha et de d'impureté, et puis ensuite de purification, ça aussi. C'est un texte qui a à voir avec la naissance. Donc la question qu'on doit poser, bien sûr, c'est pourquoi est-ce qu'il y a une impureté au moment de la naissance? Finalement, il y a une Gemara qui écrit que c'est Hachem qui a les clés de la naissance. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui décide quand un enfant va naître? Quand est-ce qu'il décide de mettre en marche le processus de sortir à l'air libre? Alors, puisque c'est Hachem qui le décide, d'une certaine manière, comment se fait-il que la femme qui vit cette décision d'Hachem, comment se fait-il que cette femme-là soit tout à coup impure? C'est quoi? C'est lié à quoi cette femme? Alors, on nous dit, alors que dans le texte, on a presque l'impression qu'on aurait presque pu s'en passer. On nous dit que cette impureté-là, elle est du même type que l'impureté consécutive aux règles, par exemple. Donc la dîme de Nida. Alors, si je regarde ce que ça peut vouloir dire, on peut se poser la question de savoir pourquoi est-ce que il y a une impureté avec un phénomène tout à fait naturel. Pourquoi est-ce que ça s'exprime? Pourquoi ça met le corps de la femme dans un état d'impureté? Finalement, c'est un processus normal. Pourquoi est-ce qu'il faudrait que ce soit impur, qu'elle soit impure pour autant? Alors, une des explications qu'on peut donner, c'est la suivante. Et on en a déjà un peu parlé. C'est-à-dire que, on pourrait dire que, le digne de Nida, il vient de ce que, une potentialité ne s'est pas actualisée. Il y avait une potentialité, c'est-à-dire, il pouvait y avoir éventuellement une vie créée, et ça ne s'est pas fait. Donc, si vous voulez, c'est une espèce de... Donc, on marque le coup, il y a quelque chose qui peut être vécu, d'ailleurs, dans certains cas, et malheureusement aussi vécu de cette façon-là, comme une extrême dépression, si vous voulez, mais dans ce cas-là, on peut se demander, ok, mais quand il y a eu une naissance, c'est exactement le contraire. Ça s'est réalisé, qu'est-ce que tu veux maintenant? Alors il faut dire que, pour aller dans le même sens, c'est que au moment de la naissance, c'est aussi un ensemble de potentialités qui ne se sont pas réalisées. Parce que tant que l'enfant n'était pas né, alors, en tout cas dans l'imaginaire de la femme, j'en parle comme si je le savais, mais bon. L'enfant, il pouvait être toutes sortes de choses. Il était toutes sortes de choses à la fois. Bon, c'était à la fois un garçon, à la fois une fille, à la fois ceci, à la fois cela. Et il avait ces qualités-là et ces autres qualités, même si elles ne sont pas incompatibles, etc. Et à la naissance, ben, toutes ces autres potentialités, bon, si elles sont éliminées, et on a. Voilà, il est là. C'est une fille ou c'est un garçon. Il est grand ou il est petit, il est intelligent ou il n'est pas. Ce sont des choses qui arrivent et les autres, tout le reste est éliminé. Donc il y a aussi toujours cette idée de potentialité qui s'en sont allés. Et si on veut continuer, l'impureté consécutive à la mort, le summum de l'impureté, c'est le corps mort. C'est-à-dire un cadavre humain, c'est le summum de l'impureté. Pourquoi est-ce que c'est le summum de l'impureté? C'est bien plus impur, si vous voulez, que le cadavre d'un animal. Pourquoi? Parce que les potentialités humaines sont complètement différentes. Elles étaient bien plus grandes, si vous voulez, que les potentialités animales. Donc, au moment de la mort, ben, finalement, il y avait toutes sortes de possibilités encore, potentialités, qui ne s'actualiseront pas. Et donc, on voit très bien que cette non-actualisation des potentialités, d'accord, ça entraîne de la pureté. On pourrait retenir cette forme de tristesse ou de, qu'il y a dans la non-réalisation, non-actualisation de ces potentialités. C'est ça qu'on appelle la Touma. Ça, c'est cette tristesse, si vous voulez, qui s'appelle Touma. On se constate, ça ne se fera pas. Donc, ce qu'on vient dire ici, sur la naissance, c'est un peu ce que, j'avais aussi essayé de le dire, ça va un peu dans le même sens de l'explication que j'avais donnée en son temps pour le baby blues. Après, il y a vraiment une dépression, parce qu'il y a une dépression physique. Et souvent, ça va de pair avec une dépression, pas seulement physique. Et alors, pourquoi? Parce que c'est une forme, on se sent exister, quelque chose. Bon, j'en parle avec d'autant plus d'assurance. Mais c'est ça, si vous voulez, il y a une forme d'existence plus, un peu comme on l'a dit, les femmes d'alote, mais c'est comme on se sent plus exister quand on a le ventre plein. C'est ce qu'a Chazal, dans la Torah, c'est marqué, Yishurot, c'est un don du clan Israël. C'est marqué, quand le clan Israël, s'engraisse, ça veut dire qu'il va bien, il mange bien, il se révolte. Il se sent exister. Donc, il dit, j'ai besoin de personne. Cette idée-là, c'est, on se sent exister plus profondément. Se sentir exister, ça peut, vous voyez, ça peut venir de toutes sortes de choses. Ma sœur m'a dit que, elle est confinée aussi à, elle m'a dit, je suis sorti faire des courses, je me suis senti exister. Et pourquoi? Elle n'était pas sortie de chez elle depuis je sais pas combien de temps, elle allait faire des courses. Alors elle a dit, j'ai mis mes gants, mon masque, tout, je me suis senti exister. Je vais faire des courses. Ben, elle allait faire ses courses à la Migros en Suisse. Et, j'existe, je fais des courses. Bon, alors, pour revenir donc à cette histoire-là, voilà, c'est la première chose qu'il dit. Alors, et ensuite, on part sur autre chose qui va nous occuper pratiquement sur les deux autres, tout le reste de Parasha et même la Parasha de Metra aussi, ce sont justement ces Negaïm. Alors, voilà. Des Negaïm, dans le texte, on en voit trois sortes. Il y a des Negaïm sur la peau, des Negaïm sur les vêtements, et des Negaïm sur la maison. En d'autres termes, si vous voulez, il y a des Negaïm sur les trois enveloppes du corps humain. Première enveloppe du corps, c'est la peau. Deuxième enveloppe sont les vêtements. Et troisième enveloppe, c'est la maison. Trois enveloppes sont susceptibles d'être touchées par des Negaïm. Le mot Negaïm, Noguer, c'est être touché. C'est touché et tu dois l'entendre comme un message. Alors on peut se demander effectivement quel est le message derrière ces signes d'impureté, comment on peut faire les Negaïm. Alors, pour les Negaïm, les différents Negaïm sur le corps humain, on dit deux choses, que on a vu en passant, c'est à la fois un signe d'orgueil et un signe de lashon hara. Ça, c'est très connu. Alors, le lashon hara, d'abord, la Torah, elle est contre. Le lashon hara, c'est quelque chose qui casse la société. Alors, on lit la Shonara, mais ça englobe dans ce domaine-là aussi Moti Shemra ou Rechilot, enfin toutes les formes de paroles interdites, si vous voulez. Alors, le Lashon Hara au sens où on parle de quelqu'un à quelqu'un d'autre, et disons, surtout le Moti Shemra, quand on dit du mal de quelqu'un, c'est quelque chose qui casse la société, donc on va casser les liaisons éventuelles des gens entre eux. Les Chachamim nous disent que Moshe Rabbeinu, en Égypte, il avait une question. Il s'est demandé, mais pourquoi finalement le peuple juif, enfin, c'est un anachronisme, mais pas bon. Pourquoi les Bnei Israël souffrent-ils tellement? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait de si grave? Alors, quand Moshe Rabbeinu a tué les Égyptiens, le fameux Égyptien là, qui s'est fait passer pour son mari et qui a réussi à affronter la fameuse Shlomit Ben Dibri, c'est le cas d'adultère, si vous voulez. Ça a eu lieu en Égypte, mais quand Moshe Rabbeinu l'a tué, marqué dans le texte que Baïfen Kobacho, Moshe Rabbeinu l'a regardé à gauche, à droite, il a regardé partout ailleurs, savoir s'il y avait quelqu'un qui était susceptible de le voir. Ce qu'il redoutait, c'est que les Égyptiens le voient. Alors il n'y a pas d'Égyptien qui l'a vu. Mais il y a deux Juifs qui l'ont vu, ça s'appelle Dathan et Aviram. Et vous connaissez le fait, le lendemain, Moshe Rabbeinu est ressorti du palais. N'oubliez pas, à ce moment-là, Moshe Rabbeinu est quasiment le prince héritier. Il sort du palais et il voit deux Juifs qui discutent. Un qui frappe l'autre. Donc lui, il intervient et il demande à celui qui frappe, mais pourquoi tu frappes ton prochain? Alors du coup, ils se mettent tous les deux contre lui, et ils lui disent, est-ce que, par hasard, tu voudrais nous tuer comme tu as tué les... Alors Moshe Rabbeinu a dit, ah, il a compris que ces gens allaient le dénoncer. Les gars, il y a des délateurs, j'ai plus de questions. J'ai plus de questions sur la souffrance du Palestin, parce qu'il y a dans le Palestin des délateurs. Donc, quelque part, ce non-peuple qui était en voie de devenir un peuple. En Égypte, on n'était pas encore un peuple. Mais les conditions minimales pour d'empathie ou de relation, etc. Il y a un délateur, ça ne marche pas. Et finalement, c'est deux délateurs pour plein de milliers de personnes. Suffit, c'est, s'il y a de la délation, alors tout est possible. C'est une forme de lâche-là, bien sûr, la délation. Une forme extrême. Mais là, c'est quelque chose d'extrêmement fréquent, si vous voulez. La délation, aujourd'hui, on dit très clairement que c'est reparti. Il y a plein de délateurs, de gens qui dénoncent leurs voisins parce que il va se promener ou il fait prendre de ceci, etc. Il paraît que c'est des phénomènes comparables à la délation pendant la Deuxième Guerre, ou c'est la délation contre les Juifs. D'ailleurs, une partie des délateurs en question, ils accusent les Juifs, en fait, d'être les responsables de Corona. La délation, c'est quelque chose qui est malheureusement extrêmement répandu, c'est-à-dire que semble-t-il, on a du mal à résister à la délation. Surtout qu'on se raconte toutes sortes de bonnes raisons. C'est, bien sûr, je dénonce parce que je protège mon pays, je protège mes enfants, je protège mes voisins, etc. Toutes sortes de discours pour se non seulement s'autoriser à le faire, mais quasiment se glorifier de l'avoir fait, ou de le faire. Et donc, on a affaire à quelque chose d'extrêmement grave. Et la question qui se pose, c'est pourquoi aujourd'hui on n'a plus ces messages? Alors, techniquement, on n'a plus les messages parce que, curieusement, si vous voulez, ces signes, pour qu'on voit bien que ces signes n'ont rien à voir avec une éventuelle maladie, ce sont des signes. Mais si quelqu'un voit ce qu'il il voit des signes, et ce livre, il connaît parfaitement là à la fin, il voit ce qu'il il voit clairement un des signes. C'est une barrette ou c'est telle ou telle impureté telle qu'elle est décrite dans la Torah. Il sait pertinemment que c'est un égat, mais il n'est pas impur pour autant. Tant qu'un Kohen n'aura pas regardé la chose, tant qu'un Kohen n'aura pas dit de cette chose-là que c'est un égat et que par conséquent la personne est impure ou bien qu'elle doit être mise en quarantaine pour voir comment va évoluer cette manifestation, est-ce que c'est vraiment un égat, etc., peu importe. En tout cas, ça dépend de la parole d'un Kohen. Et c'est un peu étrange parce que ça dépend de la parole d'un Kohen, même si ce Kohen, il ne connaît rien du tout. Ça veut dire, imaginez un Kohen à Maharetz, il ne connaît rien, mais voilà, il y a un Tadiba avec un Tadiba, qui voit la chose, qui voit exactement ce dont il s'agit, et qui lui dit, voilà, quand ça prend cette couleur-là, et quand il y a un poil qui blanchit ou qui ne blanchit pas, etc., alors c'est telle ou telle manifestation. Et le Kohen, qui vient d'apprendre sur le tas, quasiment, la chose qu'il ne connaissait pas, il va parler. Le Tamik Raham, il sait ce que c'est exactement, mais ce qu'il en dit ne change rien à l'arithmant. Et quand le Kohen a parlé, alors les choses sont changées. Et toute la procédure va dépendre du regard et de la parole d'un Kohen. C'est une des fonctions du Kohen. Donc on voit très bien que c'est comme si on disait que quand la maladie n'est pas constatée par une certaine personne, la maladie n'existe pas. Vous voyez, ça ne se marche pas dans une maladie. Mais là, en l'occurrence, il ne s'agit pas d'une maladie, il s'agit d'un message, et il faut que la personne, le signe parle, mais il faut qu'il y ait un discours, qu'il y ait une parole sur ce signe pour dire que ceci est vraiment un signe et authentifier en quelque sorte que c'est le signe. Pourquoi est-ce que ça va être un signe? Normalement, sont eux, sont de sorte des intermédiaires entre les Israël et Hachem. Alors, au sens où c'est eux qui approchent les corbanotes. Quand quelqu'un veut s'approcher d'Hachem, il peut éventuellement l'acheter, il pourra la faire tout seul. De facto, en général, on ne la fait pas tout seul. Et ensuite, toute la procédure, c'est le Kohen qui va la faire. Donc, de ce point de vue-là, on peut dire, le Kohen est celui qui, celui qui va amener la demande ou le paiement de la dette de Ben Israël à l'égard de Hachem. C'est lui qui va l'amener là où ça doit aller. Sur l'autel, par exemple. Et donc, que ce soit ces gens-là qui sont intermédiaires, soit ces gens-là qui doivent parler pour dire ce qu'on a devant nous, ce que la personne a, et donc dire, voilà, c'est un signe. Maintenant, à lui, maintenant, puisqu'on a dit que, par exemple, c'est un problème de la Lashon Hara, donc la personne, elle doit se demander pourquoi. Quand est-ce que j'ai fait de la Torah? Et donc, essayer de s'amender, c'est-à-dire, voilà, qu'on peut réparer ce qu'on peut réparer, et donc changer son attitude, c'est-à-dire bouger. Il y a un message, mais ça, on pense, d'après la Torah, que tout ce qui nous arrive, d'une certaine manière, a aussi une valeur de message. Ça veut dire, peut-être c'est simplement, on te met devant les conséquences de ton action, de ta pensée, de ta parole. Ça, le message, c'est de dire qu'il a un impact. Alors, nous, probablement, on explique que nous n'avons pas la proximité avec Hachem qu'il convient d'avoir pour bénéficier, si on peut parler comme ça, de ces négaïs. On a des négaïs seulement quand on est très proche d'Hachem. Quand Hachem vient de sanctionner le moindre écart, c'est extraordinaire. Et on lui dit tout de suite, dès qu'on s'écarte un tout petit peu, immédiatement, on nous donne le message, de s'écarter, fais attention. Tandis que nous, si on ne nous dit pas, on n'a pas de message, on peut peut-être penser qu'on est sur la bonne voie, et s'en apercevoir que plus tard. Et ça, on peut presque dire, ça fait presque partie du galout. Le galout, c'est bien que tu as toujours la terre, la chaîne. Le cache, d'une certaine manière, cache son visage, il ne se manifeste pas. On n'a pas cette proximité avec la chaîne. Donc, il y a cette première idée, si vous voulez, consiste à voir effectivement ces négaïms sont des messages. Les deux autres, les négaïms sur les vêtements et sur la maison, on dit que ça vient contre une forme de rabinerie, en fait. Ça veut dire, ou de égoïsme. Si A demande à B, qu'est-ce que tu veux me prêter, au marteau, le mien est cassé, voilà. Et que B lui dit, tu sais, en ce moment, j'ai pas de marteau. Et, alors, dans les négaïms, quand on est dans les maisons, quand il s'est avéré que la maison, en français aussi, on dit maison lépreuse, c'est lépreuse. Quand c'est une maison qui est, où il y a toutes sortes de marques sur les murs, de dégradation, une partie de pourrissement, en quelque sorte. Alors, dans la Torah, si on est arrivé à la conclusion que la maison est vraiment lépreuse, alors normalement, on va détruire la maison. On va la démonter pierre par pierre. Et du coup, tout l'intérieur de la maison va être à l'extérieur. Donc tout le monde verra qu'il avait bien un marteau. Le marteau dont tu m'as dit que tu ne l'avais pas, ben voilà, il est là. Tout le monde le voit. La lèpre sur les vêtements, je ne sais pas à quoi ça correspond. Je ne sais pas, j'ai rien trouvé à ce sujet-là, depuis longtemps. Si jamais vous trouvez quelque chose, je suis preneur. Quand c'est, il n'y a aucune condition sur ces vêtements pour qu'ils deviennent, l'épreuve, si vous voulez, n'importe quel vêtement, pourrir, de cette manière. À quoi ça correspond, je ne vois pas très bien. Parce que, vous voyez, on peut dire, il y a la parole, puis il y a le manque de solidarité, le manque de gestes. Qu'est-ce qu'il y a entre les deux correspondrait aux vêtements? Je ne sais pas. C'est dit sur les Begadim, et il y a toujours cette idée, mais je ne sais pas vraiment l'utiliser, et arriverait. Dans le mot Begadim, il y a la racine Boguet. Begida. Begida, c'est une révolte. Ça veut dire, il y avait cette dimension de révolte. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à faire avec ça? Je pense rien, pas arrivé. Essayer, mais bon, c'est pas assez. Pas trouvé exactement. Donc ça, c'est, en ce qui concerne les, quelques généralités, si vous voulez, au sujet au sujet de cette impureté. Donc, ce qui se passe ici, c'est que on parle énormément dans les plus petits détails de toute cette procédure. Bon, ça veut dire que il y a aussi cette idée qu'on ne doit pas dire, voilà, j'ai sur moi, sur mon corps, le voile de la pureté, mais il faut dire, j'ai observé comme une plaie, comme une... Bon, ça veut dire que même si on est un paham, même si on sait à coup sûr un égat, il faut pas en parler comme ça, parce que ça n'est un égat au sens de la Torah que quand un Kohen aura parlé de ce sujet-là. Tant que le Kohen n'a pas parlé, c'est pas un néga. C'est pas le néga dont on parle dans la Torah. Bien. Alors il y a ensuite, c'est essentiellement ça, si vous voulez, le corps de ces deux archiotes, on va lire ensemble, si, mais les Paul les lit séparément aussi. Hein. Donc ça mettait la personne, parce qu'il y a exactement comme il y a des flux qui rendent impurs les femmes, il y a la même chose, des flux qui rendent impurs les hommes également. Donc les personnes qui sont touchées par le biais d'un flux, etc., ou bien oui, essentiellement ce genre de choses, si vous voulez, ça va faire en sorte que d'une certaine manière, tout ce qu'elles vont toucher va devenir impur de telle manière. Et donc, ça complique énormément la vie. Je veux dire, si on voulait vivre à ce niveau-là, ce serait très difficile, parce que il y aurait plein de choses qu'il faudrait sans cesse purifier, etc. Les objets sur lesquels, les tabourets sur lesquels on va s'asseoir, etc. Il y aurait des tas de problèmes. Ah non? Ouais. Possible, effectivement. La contagion du corona ressemble un petit peu à ce qui se passe ici. Oui, pardon. La question de savoir, en fait, pourquoi finalement cette Touma vient se coller là. Alors, certains le disent de cette manière-là, ils disent que les forces de Touma, les forces de l'impureté, elles veulent coller, se coller là où il y avait de la Kdoucha. Je vous l'ai dit en termes de ces potentialités qui ne sont pas réalisées. Donc, après la mort, ou bien après la naissance, il y avait de la Kdoucha, elles viennent, les forces, elles arrivent ici, et il faut savoir que malgré le fait que cette Touma, elle va s'en aller, ou d'un certain temps, ou par les procédures, va s'en aller. Mais malgré tout, il faut que elle est là, mais elle n'a pas aboli. Il reste toujours un résidu de Kdoucha, parce que c'est ce résidu de Kdoucha qui va permettre de se s'arracher, d'avoir la volonté de remonter, de faire la tshuva nécessaire. Parce qu'évidemment, A priori, si on veut que le Cohen puisse dire que la personne est redevenue pure, dans les questions de Negaïm, par exemple, il faut qu'il ait fait tout va, il faut qu'il ait pris, on lui a envoyé un message, si la personne n'écoute pas le message, ça va pas marcher. Alors, ce qui est surprenant, ça vous a peut-être frappé également, c'est que on est dans un récit, au tout début, le récit de la purification, enfin, de l'impureté, puis ensuite du processus de purification de la femme qui a accouché. Et alors, si je prends la chronologie, en quelque sorte, on dit voilà, pendant 7 jours, elle va être impure à la suite de la naissance d'un garçon. Et puis, au lieu de continuer le processus de la description, de dire, voilà, mais après, il y a 33 jours durant lesquels elle sera pure, même s'il y a des écoulements de sang, il y a un verset, « Uvayom hashmini imol psahor lato ». Le 8e jour, dans la chronologie, c'est parfait, c'est là que ça se passe, puisqu'on a dit pendant 7 jours, elle est impure. Et le 8e jour, qu'est-ce qui se passe? La mila de l'enfant. Qu'est-ce que ça a à voir dans le processus, si vous voulez? C'est vrai que c'est au 8e jour qu'on va faire la mila. Certains veulent dire que l'impureté de 7 jours, elle est, le fait que pour un garçon elle ne dure que 7 jours, c'est parce que le 8e jour, il doit y avoir la mila, et on ne veut pas que la femme soit dans un état d'impureté le jour de la mila. On veut que tout le monde puisse se réjouir, etc., que toutes les relations soient possibles, etc. Donc, on ne veut pas qu'elle soit encore impure. Puis comme le 8e jour, c'est donné par ailleurs, ça doit être le 8e jour que tu fais la mila, alors, quelque part, certains veulent dire, c'est pour ça que la Torah n'a donné que 7 jours d'impureté pour le garçon, alors que pour la fille, un 14, ça voudrait dire que normalement, il en faudrait 14. Mais on lui a donné que la moitié, parce que pour de bonnes raisons, pour qu'elle puisse participer, que tout le monde puisse se réjouir, participe complètement à la fête au moment de la Mila. Mais maintenant, d'un autre côté, est-ce que vous avez une idée, si vous voulez, de qu'est-ce que peut bien représenter la Mila, par rapport à ce processus de purification, finalement, de sortie, de suite de l'accouchement. La suite de l'accouchement passe par, ça nous amène dans une phase de d'impureté suivie d'une beaucoup plus longue phase d'impureté. Et après, la vie reprend son cours. Et au milieu, il y a tout à coup le fait de faire la Mila. Mais, et en plus, la Mila, elle n'incombe pas du tout à la mère. Que même si le père est défaillant, la Mila, elle n'incombe plus, elle n'incombe pas à la mère. La Mila, elle incombe, si le père est défaillant, elle incombe au Beit Din, au tribunal de la ville. Il est en charge de l'affaire publique, si vous voulez. C'est lui qui doit s'en occuper. Il peut très bien demander à la femme de s'en occuper, mais c'est pas son problème à elle. Alors c'est, elle peut dire je vais m'en occuper, de facto, mais elle n'a pas d'obligation. Si elle dit mais moi c'est pas mon problème, on n'a rien à lui redire. Exactement comme dans l'éducation. Dans l'éducation des enfants, elle incombe au père. Y compris l'éducation des enfants en bas âge, même si c'est archi classique, ce sont les mamans qui en général s'occupent des enfants en bas âge en tout cas. Mais en vérité, si une mère dit ben, « je m'occupe pas de l'éducation de mon enfant, de notre enfant, c'est toi à t'en occuper, il y a son mari, bon. Il n'y a rien à redire, si vous voulez. Ça ne lui incombe pas. » Du coup, on se demande vraiment, C'est pour ça que si on regarde le texte dit ici, ou bayom hashmini, yimol. C'est-à-dire, il sera fait la mila. Et pas, elle fera la mila. Non, c'est elle, c'est de son corps à elle qu'on parle ici. Non, c'est elle qui a accouché, c'est celle qui est impure, c'est elle qui va devenir pure, etc. Et là, tout à coup, il y a quelque chose qui, d'une certaine manière, la concerne même pas, si on peut parler comme ça. Concerne, vous pouvez dire, ça concerne bien sûr son enfant, mais ça ne le concerne pas du point de vue de ses obligations. C'est pas dans son statut que fait de cela. Et donc, il reste cette question, pour moi un peu en suspens. Pourquoi est-ce que la Mila est là en plein milieu de ce processus? Qu'est-ce qu'elle fait là, en quelque sorte? C'est quand même étonnant. Le Gaon de Vilna dit la chose suivante. Et en fait, il y a deux sortes d'alliances. Parce que la Mila, c'est un brit. En ce qui concerne, je répète ce que j'ai déjà dit souvent, nous ne faisons pas la Mila de nos enfants parce qu'Abraham Avinu l'a faite. Bien parce qu'Abraham Avinu a reçu l'ordre de la faire et de la faire faire à ses descendants. Nous, on fait la Mila à cause de ce verset-là, parce que c'est marqué « Yimol ». Nous, on fait la Mila parce que dans la Torah que Hachem nous a donnée par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu, là, il est précisé donc qu'on doit faire la Mila. Mais il reste quand même quelque chose de la Mila d'Abraham Avinu, puisque quand on fait la Mila, on fait une bracha, parce qu'on fait une mitzvah, on fait une bracha comme on fait sur toutes les mitzvot, comme vous avez fait la bracha sur à la chilat matzah, on fait la mitzvah à la Mila aussi. Mais il y a une deuxième bracha dans laquelle, quand c'est le père, en général, qui fait cette bracha, il dit, « Cher kip shalom mitzvotav v'tzivanu l'achniso bivrito shel Abraham Avinu. » Dieu nous a ordonné de faire entrer notre enfant donc, dans l'alliance d'Abraham Avinu. Et tout à coup, on fait référence à l'alliance. C'est-à-dire que la notion de brit, le brit qui était fait avec les avotes, celui-là, il est là. Ce sur quoi on est coupé, d'une certaine manière, de ce que faisaient les avotes, ce sont les mitzvot. Les non-mitzvot, c'est les mitzvot qu'on a reçus par Moshe Rabbeinu aussi. Ce qui a été dit concerne à Abraham Avinu, y compris quand on parle de sa descendance, parce que c'est marqué que sa descendance doit faire la Mila aussi, d'où l'obligation pour les Ishmaël de faire la Mila aussi, parce qu'ils sont les descendants, ouais, ils subissent, ou ils sont les descendants d'Abraham Avinu. Alors, il y a un brit. Et, en fait, il y a deux britotes, enfin il y en a d'autres, mais en fait il y a deux britotes. Il y a un brit qui est un brit, si vous voulez, de celui de la Mila elle-même. On dit que il y a aussi un brit sur le brit de la Torah. La Torah est appelée elle-même Brit. Il y a le Brit qui est la circoncision sur le corps de l'enfant. Et en fait, c'est sur deux Britotes que le monde repose, en fait. Parce qu'Hachem dit, Im lo briti yomam balayla hukot shamayim ba'aretz kosamti. Un pasouk dans Yirmiyah où Hachem dit, c'est sur le brit de la Torah et le brit de la Mila que le monde repose. Et dans l'homme, pour l'homme aussi, avec le mariage, avec les rapports avec son épouse, l'homme met au monde, enfin, l'homme et la femme, donc, mettent au monde un enfant, et c'est aussi avec la Torah, parce que toute la buée, littéralement, des enfants, quand les enfants vont parler et livrer Torah, ça fabrique, Amen le gars, ça fabrique un malach, si vous voulez, comme on sait. Lui dit qu'on sait, donc on sait. Chazal dit, kol dibour ve dibour, shiyasa mi pi akadosh baruchu, nivra mi menu malach. La preuve qu'il amène, c'est de toute parole qui a été dite par akadosh baruchu, ça a créé un malach. Mais il l'applique ici pour l'homme aussi. C'est-à-dire que les hommes, surtout on dit ça sur les enfants, parce que les hommes, même quand ils disent de la Torah, il y a peut-être d'autres éléments qui viennent parasiter aussi cette parole. Elle est dite aussi d'une autre manière, mais quand les enfants, avec leur innocence, si vous voulez, disent les livres de Torah, là aussi ça crée un malheur également. Donc, tous les hommes naissent avec le défaut de la orla, si vous voulez. Jusqu'à ce qu'ils fassent la mila, ils sont incomplets. C'est un peu paradoxal, puisque on est complet quand on a enlevé quelque chose. Chazal disent, dans le pasouk, c'est marqué, Yimol besar orlato. Pour qu'il coupe, en fait, la chair de sa orla, de cet écran, en quelque sorte, qu'est la orla. Et on dit aussi, quand on parle de Moshe Rabbeinu, on dit qu'il était Aral Sepataim. Il avait une orla sur les lèvres. Comme s'il y avait quelque chose qui empêchait les lèvres de parler complètement. Donc, bien entendu, lorsque on travaille les deux, la Torah, et lorsque on grandit, en fait, dans la maîtrise, y compris la maîtrise de son corps, bien, ces alliances-là, la manifestation de ces alliances, c'est ça qui fait tenir le monde, en quelque sorte. Donc, il y a un aspect directement matériel, puis un aspect qui n'est pas matériel, qui est au niveau de la parole, c'est-à-dire le brit. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles le Lashon Hara est tellement grave. Parce que le Lashon Hara, c'est justement utiliser les lèvres, utiliser la parole sur laquelle il y a cette alliance, ce brit, là, ce brit qui est en quelque sorte abîmé, en fait, par le Lashon Hara, par l'utilisation de l'organe avec lequel on peut fabriquer de la Kdusha pour le mal, pour en faire du mal, faire quelque chose qui ne construit rien du tout. Alors, justement sur la parole, la mauvaise parole de Lashon Hara, qui débouche, comme on vient de le dire, sur les Negaïm, celui qui est touché par les Negaïm, celui-là, il va être... Quel traitement est-ce qu'on va le faire? Alors, il va être exclu. On va le faire sortir. Et on voit que les mesures qu'on prend à son égard sont plus importantes que celles qu'on prend à l'égard de quelqu'un qui a la plus haute impureté. Quelqu'un qui a été en contact avec un mort. Celui-là, il lui est interdit, il faut que je le dise, que les Bnei Israël, quand ils campaient dans le désert, il y avait le Mishkan au milieu, il y avait un premier camp autour du Mishkan, qui était le Mahane Shrina, ça s'appelait, le camp de la présence divine, là où les Kohanim pouvaient entrer, parce qu'il fallait bien qu'ils soient là pour pouvoir travailler au niveau du Mishkan. Ensuite, il y avait un autre anneau, en quelque sorte, qui était le camp des Levim. Et puis encore un troisième, qui est le camp des Bnei Israël. Alors, quelqu'un qui avait la plus grande impureté, l'impureté du contact avec un mort, celui-là, il était exclu d'un seul camp. Il ne pouvait pas entrer dans le Mahane Shrina. S'il entrait, c'était grave. Si quelqu'un avait une autre impureté, d'impureté par exemple, ou de Nida, de Ziva, ou de Zav, etc., des écoulements qui rendent impur, personne n'était exclu de deux camps, juste parce que, et celui qui avait dit de la Shonara, qui avait Megan, lui, il était exclu de tous les camps. Il était en dehors du monde, quasiment, c'est comme si on le mettait dans le désert. Presque pour le faire d'abord, on pourrait dire, première vue, on va lui faire expérimenter la condition d'être tout seul, d'être coupé de la société, puisque lui, ce qu'il a fait, c'est couper les gens de la société avec son lachon arras, et il coupe les gens de la société. Là, sa société, ouais, tu vas l'expérimenter. Donc il va être pendant un certain temps. C'est pas tellement long en réalité. On considère probablement que il doit se rendre compte assez vite de l'importance de sa faute, en quelque sorte, qu'il a amené à être frappé de l'égaïm. Alors, pour une fois, il faut dire que, a priori, ce que je vous ai décrit dans les égaïm, c'est des signes qui viennent dire qu'on a fait une faute. Mais la question qui se pose, mais si la femme accouchée doit apporter un korban khatat, bon khatat dont on est dans khatat, le khet, c'est un korban qu'on amène, qu'on a fait une faute, quelle faute a-t-elle fait? En Agmara, elle s'est posée bien sûr la question, pourquoi elle doit apporter un khatat? Alors, une des réponses qu'on donne, la réponse standard, c'est que la Torah, elle pense que dans les douleurs de l'accouchement, la femme peut être amenée à pratiquement jurer qu'elle aurait plus de rapport, pourrait la mettre de nouveau dans cet état-là. La Torah, elle comprend très bien que elle pourrait être amenée, si les douleurs sont trop grandes, à dire des paroles qui sont... Elle va évidemment pas tenir par la suite. Enfin, en général pas. Et donc c'est pour ça qu'elle apporte un khatat pour, parce qu'on comprend bien que c'est une démarche qui, c'est une parole qui pourrait très bien échapper ou être prononcée, et on admet que ça soit prononcé et que il faut réparer. On considère que même quand on obtient la kapara pour certaines choses, par exemple quand on a l'impression que ça mérite pas d'être sanctionné, bon, néanmoins on veut toujours être sûr que ça se passe au mieux. Et ça se passe au mieux, c'est-à-dire que si on peut, s'il y a quelque chose à nettoyer, on le renettoie. Donc le korban khatat ici, s'il y a quelque chose à nettoyer, on le renettoie. Et cette démarche d'apporter, même dans le doute et même quand on a déjà fait d'autres procédures, quand même se demander est-ce qu'il n'y a pas quelque chose encore à nettoyer. C'est quelque chose qui est absolument important quand quelqu'un entre dans une nouvelle phase de vie, en fait. Quand quelqu'un entre dans la nouvelle phase de sa vie, on veut qu'il soit libéré de toutes les scories de la vie précédente, en quelque sorte. C'est pour ça qu'on dit que toute personne qui accède à un rang plus élevé dans la société, bien, on le dit par exemple sur un Khatan Kala, on dit que ce jour-là, on leur pardonne toutes les fautes. C'est-à-dire, on leur ouvre une page blanche. Quoi? Parce qu'ils entrent dans un nouveau rôle, et donc, page blanche. D'accord? Je vous ai déjà dit que cette histoire de la page blanche, qui est fondamentale, c'est quelque chose que la Torah nous a donné à nous tous, en fait. Vous avez dit ce qui se passe pour le Khatan, pour quelqu'un qui devient roi ou qui a un poste particulier, nouveau. Mais en réalité, nous avons ça tous les jours. Tous les jours, il y avait un korban que l'on apportait, qui est un korban sibo, un korban de la collectivité. Ce fameux korban qu'on amenait tous les matins et tous les après-midi. Et ce korban, il avait comme fonction, d'autres fonctions aussi, mais une de ses fonctions, c'était celui du matin, qui était le premier korban qui était le korban lié avec l'ouverture des portes du Beth Amikdash, l'Amikdash qui était fermé la nuit. Quand on ouvrait les portes, il apportait un premier korban. Ce premier korban, il apportait une page blanche, c'est-à-dire les scories de la nuit, les fautes éventuelles de la nuit, étaient effacées par ce korban. Donc on avait une journée qui s'ouvrait, qui était pas du tout obérée, qui était absolument pas entachée, une page blanche pour la journée. Et à la fin de la journée, on apportait de nouveau un korban, qui faisait que on avait une nuit qui était une page blanche. Pas une nuit blanche obligatoirement, mais une page blanche dans la nuit parce que on apportait un korban pour effacer toutes les fautes de la journée. Alors bien entendu, le korban ne devait pas effacer les fautes si vous avez tué votre voisin. Le korban en question, il ne va pas vous apporter la kapara du seul fait qu'il est apporté. On l'a apporté, bien sûr. On parle des fautes standards, des inattentions, des erreurs standards. On veut pas qu'elles nous empêchent de vivre. Et donc, c'est un cadeau énorme. Et, en quelque sorte, on pourrait dire, ben, on l'a perdu avec le Beth Amikdash. On n'a plus le Beth Amikdash, donc on pourrait dire, ben, c'est la faute, c'est la perte, peut-être la plus importante. C'est toi. Mais en réalité, on n'a rien perdu parce que, on a un pasuk qui dit, on ne chama parim sfateno. C'est-à-dire qu'on a remplacé les taureaux, les corbanotes, si vous voulez, par svataïd, par nos lèvres, par le travail des lèvres, c'est-à-dire par l'étude. Quand on étudie, il suffit pour un minima de la lire, si on lit cette paracha du corban tamid, il s'appelle comme ça, du korban qu'on apporte le matin et le soir, si on lit cela, alors ça dégage des pages blanches pour la journée respectivement pour la nuit. Donc finalement, on n'a pas perdu. Seulement la grande différence, c'est toujours comme ça, c'est quand ça se faisait au Beth Amikdash, c'est les kohanim qu'il faisait pour tout le monde. Et maintenant, ça dépend de chacun d'entre nous. Bon. Personne ne lit pour vous. Si vous le lisez, alors vous en bénéficiez. Si vous ne le lisez pas, ben vous n'en bénéficiez pas. Personne ne fera le travail pour vous. De même, qu'à Yom Kippour, il faut qu'on fasse le travail nous-mêmes. Et puis, il n'y a plus de Kohen Gadol qui a son, il faisait tout le travail. C'est lui qui courait toute la journée. C'est lui qui faisait tout le travail. C'est ça qu'on a perdu. Mais on peut se demander, est-ce qu'on n'a pas gagné aussi? Est-ce que c'est pas plutôt une démarche d'adulte, si vous voulez, de se prendre en charge au lieu d'être pris en charge? On était pris en charge par les Kohanim, par le Kohen Gadol à Kippour. Maintenant, on n'est plus pris en charge de cette manière-là. Alors, il y a une recherche. Il y a beaucoup de gens qui voudraient être pris en charge. À la limite, si vous voulez, cette idée de vouloir être pris en charge, à un autre niveau, c'est celui qui se vend comme esclave. Et qui, ou bien qui, quand il a été vendu, dit, moi, je repique, je préfère cet état-là. Pris en charge complètement. Il n'y a pas de problème de chômage, pas de problème de ce qu'il y a à faire. Ma famille est nourrie, logée, blanchie. On travaillait d'ailleurs. Il n'y a que moi qui travaille. Mais je n'ai pas de problème. Des vrais fonctionnaires. Il y a cette idée qui est être pris en charge. Il y a des gens qui veulent être pris en charge aussi spirituellement. C'était une des... Vous voulez, quand des gens étaient malheureux, si vous voulez, un peu perdus dans le monde, c'est ce qui a provoqué probablement la naissance de la Hassidoute dans le monde. Parce que on a besoin de quelqu'un qui fait le travail. Le tzaddik, le rebbe, il fait le travail pour les autres. Et il ne dispense pas complètement, mais il pense que voilà, si lui il fait le travail, il fait le travail pour tout le monde. Celui qui étudie, bien aujourd'hui ça a explosé, tout le monde étudie aussi, mais dans l'idée de base, c'était ça. Les gens, ils ne savaient pas comment se débrouiller, un peu perdu. Voilà, ils ont été sauvés par ça. Le clan d'Israël a trouvé en soi les ressources pour fabriquer une aide à des gens qui étaient perdus. Alors évidemment, on peut se demander, ça c'est la version Ashkenaz, si vous voulez. La version Sfarad, elle était plutôt sur les tzadikim, sur les tombes desquelles on allait pèleriner. Par ce biais-là, demander des brachot, etc. Et ils se sont rencontrés. Il y a beaucoup de points communs entre la Hassidoute et qui va aussi sur les tombes, etc. Et le monde Sfarad aussi, c'est des bénédictions, des brachot, c'est très très bien, c'est pas. Mais on s'en remet en quelque sorte. De certaine manière, on compte sur le mérite des tzadikim, etc. Donc, dans les deux côtés, dans le monde Ashkenaz, dans le monde Sfarad, chacun à sa manière a résolu un problème qui probablement était un problème, c'est le problème qui est peut-être né de ce que les gens qui n'avaient pas accès à l'étude, d'une manière ou d'une autre, ils étaient un peu paumés, ils étaient aussi un peu à la fois méprisés par l'élite des gens qui savaient étudier, si vous voulez, connaissaient. Et peut-être, effectivement, ils même ressentaient aussi peut-être le manque, pas seulement parce que les autres leur faisaient sentir, mais parce que d'eux-mêmes aussi, ils ressentaient qu'il leur manquait quelque chose. Et donc, tout ça, c'est des situations qui naissent parce que nous ne sommes pas assez proches d'Hachem. Il nous envoie des signes qui nous permettent de nous guider plus finement, en quelque sorte. On a perdu cette qualité, cette situation. Mais, encore une fois, on l'a perdu de cette manière-là. Elles sont visibles avec des signes extérieurs. Mais en réalité, là aussi c'est vrai, probablement que si on est vraiment à l'écoute, il y a des messages qui s'achèvent. Et sans passer par des simanimes bien précis, par Megaïm ou autre chose, mais il y a aussi des signes dans la vie des gens. Mais maintenant, il faut pas exagérer à donner n'importe quelle interprétation à n'importe quel signe. Ça demande un savoir-faire, peut-être. Ça demande de la chokma. Ça demande, si on veut interpréter, essayer d'interpréter. Là, du coup, il faut peut-être discuter, aller poser des problèmes à des maîtres pour avoir la critique. Comment critiquer? Est-ce que c'est juste cette interprétation ou est-ce que c'est n'importe quoi? Parce que souvent, ça peut être n'importe quoi. Il faut faire attention.